il y a un lien avec le fait que la science était faite par les hommes principalement. Alors, les premières qui vont attirer l'attention sur ce phénomène, ce sont les féministes qui travaillent sur le terrain des femmes battues. Ça se passe dans les pays anglo-saxons dans les années 70. Et là, elles commencent à mettre, le problème sur la place publique, à en parler, à agiter l'opinion publique. Et c'est à partir de ce moment-là que les sciences sociales vont s'y intéresser. Et là, nous avons un cas intéressant au plan épistémologique, de comment un champ scientifique a pu être enrichi grâce à l'apport de féministes sur le terrain. Alors, j'en viens peut-être maintenant un peu plus précisément à la recherche que nous avons menée avec deux collègues. Voilà, donc nous étions trois à faire cette recherche, deux sociologues, Jacqueline Depuy et moi-même, Véronique Dupré, et l'étude s'intitule « Rapport de domination et violence envers les femmes dans la famille ». Deux mots peut-être sur l'objet. Vous avez vu qu'il n'y a pas seulement violence, il y a rapport de domination. L'objet visé par la sociologie, ça ne peut pas être la violence. La violence est un fait, brut, je dirais, mais qui n'a pas de pertinence sociologique en tant que telle. En effet, entre la violence d'un dominant et la violence du dominé, par exemple, ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple. Par violence du dominant, j'appelle, par exemple, la violence de l'homme blanc qui va faire du tourisme sexuel en s'offrant des enfants dans le tiers-monde. C'est ce que j'appelle la violence du dominant. Eh bien, entre ce type de violence-là et la violence du dominé, qui serait, par exemple, le jeune de banlieue qui n'a pas de travail, qui est au chômage, qui est de parents immigrés, etc., et qui casse parce qu'il veut réagir contre une société qui l'exclut, eh bien, je dirais qu'entre ces deux phénomènes-là, qui sont tous les deux des phénomènes violents, il y a peu de choses en commun, et la sociologie se doit de les distinguer sous peine d'amalgamer des choses qui n'ont rien à faire. D'où notre objet, c'est les rapports de domination entre hommes et femmes et la violence dans le couple. Les objectifs de cette recherche, connaître l'ampleur de la violence conjugale. Vous savez qu'on manque cruellement de chiffres. En Suisse, on ne possède pas de statistiques sur les cas de violence conjugale. On n'a même pas de chiffres ni au niveau fédéral ni au niveau cantonal. On a des statistiques de maisons pour femmes battues, mais évidemment, c'est la petite pointe visible de l'iceberg. Mais on n'a tout simplement pas de chiffres et on n'a même pas des estimations. La France vous dit, par exemple, qu'il y a 2 à 3 millions de femmes battues suite à des estimations faites. Pour la Suisse, on n'était même pas capable d'avancer un chiffre. On n'avait aucune idée. Donc, notre tout premier objectif était de chiffrer pour montrer que ça existe et pour montrer son ampleur. Deuxième objectif, étudier les conséquences de la violence à travers la parole des femmes, entendre ce qu'elles nous disent de cette violence, quel effet ça a sur elles. Troisième point, les facteurs qui l'entraînent. Là, on s'intéressait plus spécialement aux facteurs familiaux. On voulait, en comparant les familles avec violence et les familles sans violence, essayer de repérer des facteurs microsociaux, donc au niveau familial, qui sont porteurs de violence. Et puis, dernier point, les stratégies des femmes violentées. On voulait voir qu'est-ce qu'elles font. On mettait un peu en doute au point de départ cette idée que la femme violentée est passive et ne fait rien pour en sortir. On a vu effectivement qu'elle faisait beaucoup de choses et qu'elle dépense beaucoup d'énergie pour faire face à la violence. Et donc, on a étudié un peu leur stratégie. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout traiter, donc je vais me limiter à l'ampleur de la violence et aux facteurs qui l'entraînent. Alors, l'étude comprend deux grands volets. Un volet quantitatif, on a interviewé 1500 femmes âgées de 20 à 60 ans dans toute la Suisse, pas dans le Tessin, mais dans toute la Suisse, romande et alémanique. Et nous avions une population de 1500 personnes. Ça, c'est la première partie, le qualitatif, qui a fait l'objet d'un traitement statistique. Et la deuxième partie, c'est une enquête qualitative où on voulait avoir les témoignages de 30 femmes violentées qui nous racontaient ce qu'elles avaient vécu et ce qu'elles avaient ressenti en vivant ces violences. Alors, peut-être un point de méthode intéressant, puisqu'il est aussi question de traiter des méthodes cet après-midi. Il faut que vous sachiez que pendant très longtemps, au début des études féministes, des women's studies, les méthodes quantitatives étaient tonies. On disait ça, c'est des méthodes masculines, ce qui n'est pas dénué de tout fondement d'ailleurs. C'est des méthodes masculines qui ne correspondent pas aux besoins des femmes et aux problèmes des femmes. Et les féministes des premiers temps des recherches féministes ne voulaient absolument pas entendre parler de recherche quantitative. Par la suite, les choses ont évolué et à l'heure actuelle, on admet que les deux méthodes ont leur quantitative et qualitative, ont leur intérêt et qu'il s'agit de les employer conjointement ou en tout cas de les employer dans une perspective, je dirais, vigilante où on ne se laisse. C'est vrai qu'il y a parfois des pièges à employer certaines méthodes quantitatives, mais l'idée était de les utiliser de façon réfléchie et vigilante. Donc voilà, nous avons pris le parti de traiter ces deux méthodes comme complémentaires. C'est vrai qu'à travers du quantitatif purement, on fait en quelque sorte, si j'ose dire, violence aux femmes que l'on interroge, puisqu'on a un questionnaire et on les mitraille. Hein, c'était un questionnaire téléphonique en l'occurrence, et on leur a posé une centaine de questions en 20 minutes. Tac, 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 il faut que ça aille vite parce que ça coûte cher. Donc c'est vrai que d'un certain côté, c'est d'un point de vue féministe, si vous voulez, c'est un peu gênant de traiter les gens comme ça, comme des machines à répondre. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire aussi une analyse qualitative, où là alors, on était dans une posture d'écoute, et les femmes pouvaient nous dire, on avait évidemment un guide d'entretien, mais les femmes pouvaient nous dire plus longuement ce qu'elles avaient à dire, ce qui était important, et peut-être des choses auxquelles nous n'avions pas pensé hein, dans notre partie quantitative. Alors, j'en viens tout de suite aux résultats, mais évidemment, des résultats, des pourcentages ne veulent rien dire indépendamment des méthodes. J'ai été souvent frappée de voir les journalistes qui disaient « Alors, combien de pourcents ?» Et puis, ça n'a autant que vous ne savez pas comment la violence est définie et comment vous avez produit vos résultats, eh bien, on peut faire varier le pourcentage de femmes violentées entre 5 et 50%. Il suffit d'élargir la définition. Donc, je vais vous montrer comment nous avons défini cette violence. Puisqu'il faut aller très vite maintenant, mais il s'agit d'actes, donc, qui allaient des actes les plus légers, comme jeter un objet sur elle, la pousser, l'employer, la pousser, jusqu'à des choses graves, comme se servir d'un couteau ou tirer un coup de feu. Violence sexuelle a été prise en sens fort, c'est quasiment un viol conjugal, et violence psychologique, nous avons retenu petite partie de ce qui était possible, mais il fallait éviter d'avoir des choses qui n'étaient pas uniformes. Alors, voilà les résultats. Alors, si vous regardez, au cours des 12 derniers mois, en français, vous avez la violence physique ou sexuelle, et en clair, la violence psychologique. Vous avez 6% des femmes qui déclarent au cours des 12 derniers mois de la violence physique ou sexuelle, et une sur quatre, de la violence physique.
Excuse-moi, il faut parler dans le micro parce que ça ne se passe pas enregistré.
Psychologique. Si vous regardez au cours de la vie, vous voyez à ce moment-là que les chiffres sont beaucoup plus importants puisque vous avez une femme sur cinq qui dit qu'elle a vécu de la violence physique ou sexuelle et 4 femmes sur 10 ou 2 femmes sur 5 qui ont vécu de la violence psychologique. Ces chiffres sont des minima. On a de bonnes raisons de penser qu'ils sont sous-estimés. Ces raisons sont les suivantes. D'une part, enquêter sur un tel sujet n'est pas facile. Il y a la honte des femmes qui hésitent à en parler. Il y a aussi tout le contrôle du mari qui est autour de cette violence. Donc, c'est pas seulement de la violence, mais il y a une surveillance de tous les faits et gestes de la femme. Donc, il est possible qu'au téléphone, elle n'ait pas pu s'exprimer. Et puis, il y a surtout le fait que nous n'avons enquêté que des femmes qui vivent en couple. Or, on sait que toutes les femmes qui se sont séparées, il y a des taux de violence conjugale plus élevés. Et celles-là, nous ne les avons pas prises, sauf celles qui s'étaient séparées au cours des 12 derniers mois. Nous n'avions que des femmes qui vivaient en couple. Donc, de ce fait-là, il y a une sous-estime. Si vous voulez, on a des chiffres plus faibles que si on avait pris l'ensemble des femmes. Alors, je vais très vite avec les facteurs. L'hypothèse que nous avions fait concernant les facteurs qui entraînaient la violence. Alors, l'hypothèse générale était une hypothèse basée sur l'inégalité. Nous nous sommes dit, plus il y a inégalité dans le couple, plus il y a de risque d'avoir de la violence. Et cette inégalité a été développée comme suit: inégalité de ressources entre les conjoints, ressources scolaires, professionnelles, économiques, etc. Inégalité quant à l'organisation de la famille et inégalité dans le pouvoir et les interactions au sein du couple. Alors, les résultats nous ont partiellement donné raison à nos hypothèses et partiellement démenti, c'est-à-dire que les deux premières hypothèses, ici, si vous voulez, l'hypothèse ne marche pas. Que les individus, les membres du couple, et des capitaux identiques ou différents, ça ne change pas les taux de femmes violentées. De même, l'organisation de la famille, que vous ayez des familles de type hyper traditionnel ou des familles de type très moderne, les taux de violence ne changent pas. En revanche, ce qui change beaucoup, c'est la dominance que nous avons appelée la dominance de l'homme dans les interactions du couple.
Excuse-moi, mais il faut commencer à conclure.
Par dominance, nous avons retenu ces trois dimensions: l'autorité dans le couple, l'emprise sur la femme et la dévalorisation de la femme. Et ce sera ma fin, sans conclusion, mais le dernier graphique. 79% des maris qui ont infligé des violences importantes ont un indice de dominance moyen fort. Ça veut dire qu'ils ont un comportement fortement ou moyennement fortement dominant. Alors que dans 79% des cas, les maris non violents ont un indice de dominance faible à nul. Donc ceci nous montre bien que la violence n'est pas une perte de contrôle, mais c'est une stratégie utilisée par l'homme dans le couple pour asseoir sa suprématie et assigner la femme dans une position de subordination.
Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Pagnosien Aligizakis sur l'élaboration de nouvelles méthodes de mesure du travail domestique.
Je reste ici, je n'ai pas de...
Comme tu veux,
transparent.
Tu parles dans le micro. C'est bon, tu parles dedans.
Alors, j'aimerais tout d'abord remercier les organisatrices de ce colloque pour l'opportunité qui m'a été donnée de présenter la recherche intitulée « Valorisation monétaire du travail non marchand des ménages ». Expérimentation par étude des cas de la méthode de la rémunération effective. Cette recherche a été dirigée par Louisa Goldschmidt-Clermont en collaboration avec Choukoufé, Samy et Temat et moi-même. Bien évidemment, j'aimerais également remercier le Fonds national de la recherche scientifique et les laboratoires d'économie appliquée de l'Université de Genève pour le financement et l'encadrement de cette étude. Mon propos est donc de traiter brièvement la problématique de l'élaboration des méthodes de mesure du travail domestique. Dans les langages courants, une femme au foyer ne travaille pas. Sans doute, si par travail, on entend qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle payée. En revanche, au sens large, elle travaille car elle consacre plusieurs heures de sa journée et parfois de sa nuit à accomplir un nombre important et varié d'activités domestiques et familiales qui produisent des biens et des services. Par exemple, des repas préparés, du linge lavé et repassé, quelques mètres carrés de logements nettoyés, des enfants à charge soignés. L'invisibilité de la production domestique a été pendant longtemps la conséquence, je dirais entre autres, de trois éléments. Production essentiellement féminine, fournie et consommée dans le cadre de la sphère privée, dépourvue de valorisation monétaire. À cela, bien évidemment, s'ajoutent des problèmes théoriques et méthodologiques de mesure qui font qu'elle n'est pas encore enregistrée dans les statistiques économiques. Actuellement, la reconnaissance des principes que les activités domestiques sont des activités productives n'est plus remise en question. En revanche, des divergences théoriques et des difficultés pratiques surgissent lors de la quantification et de l'imputation d'une valeur monétaire à cette production. Avant d'exposer cette problématique, je vais vous présenter quelques éléments introductifs généraux. Chaque individu accomplit divers types d'activités. On peut distinguer deux catégories d'activités économiques ou productives. Primo, les activités marchandes et secondo, celles non marchandes. Dans les deux types d'activités, s'il y a des similitudes dans le processus de production et dans la production finale de biens et de services, une différence notable réside dans la présence ou l'absence des transactions monétaires. Outre les activités économiques, les individus accomplissent des activités non économiques, c'est-à-dire personnelles, par exemple manger, boire, dormir. Afin de différencier les activités productives des activités personnelles, l'on recourt aux critères dits de la tierce personne. Par ces critères, l'on reconnaît qu'une activité comme productive lorsqu'elle peut être accomplie par une personne autre que celle qui bénéficie du produit fourni par cette activité. Par exemple, une personne peut préparer mon repas. Les repas préparés au restaurant sont les fruits d'une activité productive marchande. Celui préparé à la maison découle d'une activité non marchande. Mais personne ne peut le manger à ma place. Activité personnelle. Venons maintenant à notre objectif principal. Quantifier, évaluer la production non marchande. Si de nombreuses méthodes ont été élaborées et testées jusqu'à ce jour, il faut dire qu'aucune n'est totalement satisfaisante. En simplifiant vraiment à l'extrême, pour procéder à une valorisation de la production non marchande des ménages, donc de la production domestique, une première possibilité consiste à imputer une valeur dérivée d'un salaire moyen au temps de travail nécessaire pour accomplir une ou plusieurs activités non marchandes. Le salaire moyen peut être celui de l'ensemble ou bien d'une catégorie de travailleurs et ou travailleuses. Par exemple, le salaire par heure d'une femme de ménage ou d'une aide familiale multiplié par le nombre d'heures consacrées au travail domestique par le ménage. Cette méthode, sans être complètement insatisfaisante, reste plutôt limitée. La deuxième possibilité est de faire appel au prix marchand de divers produits, c'est-à-dire repas, lessive, nettoyage, etc. Au plan conceptuel, la valorisation par les produits est reconnue comme préférable car compatible avec des données de la comptabilité nationale. L'inconvénient majeur de cette méthode provient du fait que son utilisation requiert une collecte importante de données. Alors, la méthode de la rémunération effective, testée dans notre étude, s'insère justement dans cette perspective de la valorisation par les produits. Cette méthode combine la valorisation au prix du marché des biens et des services produits par les ménages avec la mesure des temps de travail non rémunérés correspondants. Elle consiste à d'abord recueillir des informations sur les quantités produites à partir d'un petit échantillon de la population, à calculer ensuite la rémunération effective par catégorie d'activité et imputer cette rémunération aux emplois du temps fournis par les enquêtes représentatives. Deux avantages sont escomptés par l'application de cette méthode. Premièrement, la possibilité d'une mise en œuvre graduelle qui permet de créer progressivement la base de données bancantes et d'affiner les techniques de collecte de données. Deuxièmement, le fait qu'elle allège de plusieurs façons la collecte même de ces données. Alors, on peut dire que notre étude, finalement, poursuivait un but exclusivement méthodologique, c'est-à-dire tester la faisabilité de la valorisation de l'ensemble de la production de marchandes de ménage par cette méthode. Pour illustrer la démarche, prenons un exemple concret de la catégorie, par exemple, lessive, juste pour présenter schématiquement les diverses étapes dans le calcul de la rémunération horaire effective de cette activité. La valeur brute de l'activité lessive est calculée en multipliant les volumes, c'est-à-dire les kilos de lessive lavée, par les prix moyens du kilo de lessive pratiqué chez les blanchisseurs. De la valeur brute, il faut déduire par la suite les dépenses incourues par les ménages, style produits lessiviels, consommation d'électricité, amortissement du lave-linge, sèche-linge, éventuellement l'aide rémunérée. On obtient ainsi la valeur nette. Enfin, la rémunération horaire effective de l'activité lessive est donnée en divisant la valeur nette de cette activité par les temps consacrés pour accomplir cette tâche. Deux résultats importants de la recherche doivent être mentionnés. D'abord, l'objectif de défrichage semble avoir été atteint pour en tout cas une part importante de la production non marchande des ménages. Des réflexions et des suggestions conclusives devraient permettre de poursuivre la recherche et d'affiner la méthode par étapes successives. Ensuite, cette recherche fait apparaître la possibilité de procéder à une valorisation monétaire directe partant des volumes produits et leur imputant des prix marchands. Faisant ainsi l'économie des données sur l'emploi du temps, on pourrait directement calculer les valeurs brutes et nettes du produit non marchand. Le calcul de la rémunération effective, qui reste en tout cas un outil intéressant du point de vue de l'analyse économique, peut être effectué ultérieurement. Examinons à présent les apports de la mesure du travail domestique et familial. La connaissance du secteur non marchand, donc tout ce qui est domestique et familial dans le cadre des ménages, passe d'abord par la quantification. Il faut quantifier pour connaître. Si la mesure des volumes produits, c'est-à-dire les kilos de lessive plutôt que les repas préparés, n'a fourni jusqu'à ce jour que des données très partielles, la mesure en temps de travail est bien plus avancée grâce à des enquêtes qui permettent, entre autres, des analyses sociologiques. Quelques exemples permettent d'illustrer ces propos. Dans une étude comparative récente, nous relevons que les temps économiques, c'est-à-dire les temps consacrés aux activités marchandes et non marchandes, occupent moins d'un tiers de la journée, disons, moyenne de la population des 14 pays analysés, c'est-à-dire environ 6-7 heures par jour sur 7 jours. Les deux tiers restants sont consacrés aux activités personnelles. Si l'on analyse seulement l'ensemble des activités économiques productives, le temps absorbé par les activités marchandes est pratiquement équivalent en moyenne au temps consacré aux activités non marchandes dans la plupart des pays. En revanche, la spécificité de l'attribution traditionnelle des activités par sexe entre hommes et femmes se confirme. Les femmes consacrent une proportion majeure de leur temps économique aux activités non marchandes, environ 4 et 6 heures par jour selon les pays, et les hommes aux activités marchandes, et les écarts sont parfois très importants. Donc, si les anciens modèles de répartition des rôles sont toujours vivants, les changements imperceptibles ont lieu dans les temps. Malgré cela, les différences observables dans la distribution entre les activités marchandes et celles non marchandes entre hommes et femmes sont d'une part générales et d'autre part persistantes. Par ailleurs, des données sur les temps consacrés aux activités domestiques pour la Suisse, même si elles ne sont pas comparables à celles utilisées dans l'étude que je viens de citer, donnent une image assez semblable. Soulignons seulement que sur le marché du travail, les 23 heures de travail domestique consacrées en moyenne par les femmes suisses correspondent respectivement à mi-temps et les 40 heures en moyenne des femmes avec enfants en bas âge correspondent bien évidemment à un plein temps d'une activité professionnelle. Mais la production non marchande des ménages doit être aussi appréciée en termes personnels et sociaux. Il faut reconnaître aussi le caractère économique. À notre avis, procéder à la valorisation monétaire a d'abord une signification symbolique. Traduire cette production en valeur monétaire, c'est une manière de la réévaluer, de la reconnaître comme partie du domaine économique, partie intégrante dans une mode de pensée de la société actuelle. Pour ce faire, bien sûr, certains concepts tels le concept du travail, production et des loisirs doivent être repensés et redéfinis et certains problèmes d'ordre méthodologique doivent être résolus. d'où la nécessité d'utiliser des méthodes et des unités de mesure comparables communes au secteur traditionnel de l'économie. L'importance du choix de la méthode pour procéder à la valorisation monétaire de cette production de marchandes devient évidente, d'autant plus que la méthode utilisée conditionne aussi les résultats qui peuvent être obtenus dans un même pays. Pour donner des ordres de grandeur, la valeur de la production de marchandes dans certains pays industrialisés a été estimée environ un tiers à la moitié du PNB. Une grande variété d'activités, de biens et de services produits se concentrent dans les microcosmes du ménage, et si une certaine substitution de travail et de production est possible entre les secteurs marchands et les secteurs non marchands, ce sont plutôt des considérations économiques, sociales et personnelles qui réduisent parfois dans la réalité les possibilités de substitution. Mais les deux secteurs interagissent. De ces faits, une meilleure connaissance du secteur non marchand pourrait apporter des éléments supplémentaires dans l'élaboration de certaines politiques économiques et sociales, par exemple grâce à l'analyse des transferts de main-d'œuvre ou de production d'un secteur à l'autre. Rappelons aussi que l'accomplissement des tâches domestiques demande des compétences, de la disponibilité et des responsabilités. Les activités liées aux enfants en sont un exemple. Passer sous silence ces caractéristiques du travail domestique signifie méconnaître certains aspects de cette contribution qu'on a vue essentiellement féminine. En même temps, cela permet de perpétuer les cercles vicieux dans lesquels sont souvent enfermées les femmes. Celui-ci a des répercussions très importantes dans plusieurs domaines socio-économiques, on a vu dans les marchés de l'emploi, et des lourdes conséquences aussi dans les domaines du droit. Que peut-on dire en guise de conclusion de cet exposé? C'est que toutes les données disponibles actuellement, qu'elles soient globales ou partielles, en unité temporelle, physique ou monétaire, même si obtenues par des méthodes diverses, montrent l'importance du secteur de la production non marchande des ménages. Malgré l'attention portée à ce sujet par plusieurs chercheurs et chercheuses depuis plus d'un demi-siècle, ce secteur reste toujours peu et mal connu. Pourtant, il est essentiel au bon fonctionnement de la société, en tout cas telle qu'elle est organisée actuellement. La production non marchande des ménages vaut des chiffres à plusieurs zéros dans toutes les monnaies nationales. Elle absorbe presque autant de temps de travail que les activités marchandes. Mais au-delà de la simple présentation d'un chiffre, il faut que la valorisation monétaire de la production non marchande des ménages soit calculée sur la base d'une méthode convaincante, c'est-à-dire comparable aux méthodes utilisées pour le secteur marchand, praticable au niveau macroéconomique et utile pour l'analyse économique. Notre recherche visait à explorer les possibilités de réalisation de cette nouvelle méthode de valorisation monétaire, méthode qui devrait pouvoir satisfaire aux ces trois exigences. Première étape dans un processus de mise au point d'une méthode, l'étude parvient à des résultats globalement positifs. Mais elle n'est qu'une première étape et d'autres devraient suivre afin de disposer d'une méthode qui puisse satisfaire aux multiples exigences et possibilités d'application.
Bien, merci beaucoup. Je crois que le moment est venu de prendre une pause. On a bien sûr pris du retard, mais ça, il fallait s'y attendre. On prend toujours du retard. Alors, on propose un quart d'heure de pause. Donc, on recommence à 3h30 avec la discussion. Comme je vous ai dit, Monsieur Flückiger ne pourra malheureusement pas rester tout le long de la discussion. Alors, éventuellement, peut-être que vous pouvez l'attraper pendant la pause si vous avez des questions précises à lui poser. Merci. Je vois entre tout ce qui s'est dit. Alors, j'ouvre le débat, comme ce matin, donc vous posez vos questions. Si possible, peut-être, si vous avez des questions à poser à M. Flückiger en particulier, faites-le tout de suite parce qu'il va partir assez vite. Alors, il y a un micro dans la salle.
Alors, j'ai déjà posé. Oui, j'ai déjà posé une question à M. Flückiger à l'entracte, mais je vais lui en poser une seconde. J'aimerais bien savoir quels sont les résultats qu'il a obtenus avec le paramètre travail de nuit. Et est-ce que le travail de nuit n'étant pas réglementé, la liberté, disons, d'expression des résultats n'est-elle pas limitée de ce fait?
Alors effectivement, on avait le paramètre travail de nuit qu'on a intégré naturellement en pensant qu'il donnait lieu effectivement à une prime de salaire pour les hommes et pour les femmes. On a été surpris de voir que cette prime existait, mais elle est excessivement faible. Pour le travail de nuit, on a obtenu 2,4% pour les femmes de prime salariale par rapport à une femme qui travaillerait de jour. Et pour les hommes, c'est 5,6%. Donc il y a une différence très forte entre hommes et femmes, mais même au niveau de l'ampleur de la prime pour le travail de nuit, je dois dire qu'on a été surpris par le faible niveau de cette prime en comparaison internationale. C'est vrai que dans d'autres pays où peut-être les syndicats ont un poids plus fort sur le marché du travail, on a des primes même plus importantes par rapport aux gens qui travaillent dans des conditions de nuit et des conditions de travail précaires ou atypiques en tout cas.
Vous entendez?
Oui, oui.
Est-ce que vous relevez le même taux d'inégalité dans les administrations, qu'elles soient communales ou cantonales, que dans le privé?
Non, alors effectivement, les différences sont plus fortes dans le secteur privé. Je vous parlais de cette discrimination de 40%, 60% tout à l'heure. Il est évident que c'est plus fort dans le secteur privé. C'est plus faible, assez largement plus faible dans le secteur public. Dans le secteur public genevois, par exemple, on a une discrimination qui représente 20% des différences de salaire. Mais elle existe encore, hein, malgré peut-être des échelles salariales plus établies qui devraient en principe réduire le champ de ces discriminations. Elles existent encore, même si le secteur public fait office un peu de pionnier dans ce domaine. Il y a encore du travail à faire dans le secteur privé aussi, dans le secteur public aussi, effectivement.
Oui, ma question allait dans ce sens. Par rapport aux mutations du monde du travail, vous disiez les femmes devraient profiter de faire avancer leurs revendications. Et Madame Gelsberger parlait aussi de ces emplois atypiques. Alors, pouvez-vous peut-être en rajouter un peu? Est-ce que c'est une chance peut-être pour les femmes qui ont plus l'habitude de s'arranger avec certaines de ces situations atypiques? Dans quel sens allait votre pensée en disant qu'elles devraient faire avancer leurs revendications?
C'est vrai peut-être que je n'ai peut-être pas été tout à fait clair sur ce point. Pour moi, c'est une chance en ce sens que ça met en péril les hommes et les femmes de la même façon face à un développement du marché du travail aujourd'hui qui, depuis 1991, sur la base des données OSPA, montre très clairement une augmentation importante du temps partiel. Si le travail salarié à plein temps se réduit et que ce n'est plus la norme du marché du travail, notamment pour les hommes, eh bien ça signifie que les hommes comme les femmes sont placés devant des situations de travail qui sont précaires aujourd'hui. Elles sont précaires parce qu'au niveau des salaires, c'est pénalisé, c'est-à-dire plus pénalisé pour les hommes que pour les femmes. C'est précaire parce qu'aussi beaucoup de conventions collectives ne couvre pas cette forme d'emploi, et c'est aussi une réflexion qu'on pourrait avoir par rapport au travail syndical. Et c'est précaire aussi en termes d'assurance sociale, et là j'aimerais dire que c'est un point extrêmement important, compte tenu du revenu minimum de coordination. Il y a pas mal de gens qui travaillent à temps partiel, qui sont plus couverts par le deuxième pilier, et ça signifie qu'on est en train de reporter dans le temps des problèmes extrêmement importants, au sens où les gens, quand ils seront à la retraite et n'ayant pas cotisé au deuxième pilier, ne pourront pas vivre avec uniquement leur AVS, et ça va poser des problèmes importants en termes d'assistance. Donc je crois que c'est plutôt un péril aujourd'hui, mais le péril finalement, j'ai un peu le simple sentiment qu'il s'adresse pas seulement aux femmes, il s'adresse aussi à la population masculine. Donc c'est peut-être une manière pour les femmes de dire aux hommes, écoutez, notre combat, c'est plus seulement le combat des femmes contre les hommes, puisque c'est un peu comme ça qu'on a peut-être un peu tendance à le présenter du côté masculin notamment, mais finalement c'est un problème face aux mutations du monde du travail qui pose toute une série de questions, notamment aussi au niveau institutionnel.
J'aimerais juste dire, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a peut-être cette tendance que M. Fulker vient d'évoquer, mais quand on regarde le temps partiel, donc si je prends les données de l'ESPA et je compare 91 à 96, donc je viens de recevoir, moi je vois quand même qu'entre 91 et 96, donc dans cette époque où la crise économique a démarré, donc est marquée par la crise économique, le temps partiel de n'importe quel statut d'emploi, donc y compris indépendant, pour les hommes, a passé de 7,8% à 8,4%, donc augmenté d'un demi pour cent en 5 ans. Pour les femmes, ça a augmenté, mais un petit peu plus. Donc, a augmenté de 91 à 49,2% à 52,2%. Donc, ça augmente. Bon, les écarts entre hommes et femmes sont toujours énormes. Et ça augmente même pour les femmes encore un peu plus que pour les hommes. Donc, les femmes s'enfoncent de plus en plus dans ce temps partiel. Et pour les hommes, ça reste marginal. Et il faut aussi dire, c'est pas au même moment. Les hommes, souvent, aujourd'hui, en tout cas les jeunes, ont de la peine à entrer dans le marché du travail. Pour le temps partiel, pour les hommes, se situe souvent en marge de la carrière. C'est-à-dire en début de carrière, en fin de carrière, rarement au milieu. Tandis que pour les femmes, c'est une étape caractéristique autour de la trentaine, quarantaine. Donc, ça reste fondamentalement différent. Il y a peut-être des petites tendances qui vont dans ce sens, mais je trouve que c'est peu visible encore.
Oui.
Un point, c'est vrai que par rapport aux femmes, peut-être une des différences qui marque le temps partiel chez les hommes, c'est qu'on constate notamment qu'un certain nombre de personnes qui arrivent en fin de droit, des chômeurs en fin de droit, retrouvent difficilement, très difficilement, de nouveaux emplois. Et quand ils en retrouvent, c'est souvent dans les statuts précaires d'indépendants et du temps partiel. Donc, c'est vrai que là, il y a vraiment une situation extrêmement précaire. Ce n'est pas lié nécessairement au cycle de vie en tant que tel. C'est encore un peu lié au cycle de vie pour les femmes. Pour les hommes, c'est souvent lié à un parcours biographique vers le chômage et vers la précarité.
Oui, moi je voulais réagir, mais vous abordez partiellement. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on va vers une espèce de société à deux vitesses par rapport à l'emploi, c'est-à-dire des gens qui auront à une période peut-être de leur vie un emploi salarié à 100% et contre des emplois précaires, beaucoup pour les femmes, mais aussi pour certains hommes. Alors, qui devront se débrouiller dans la précarité de l'indépendance aussi par rapport aux protections sociales.
Non, j'ai vraiment le sentiment, effectivement, que ces mutations, c'est une recherche pour l'entreprise de plus de flexibilité. Hein, et je crois que c'est un phénomène, pour moi, que je perçois comme assez global, effectivement.
J'ai deux questions. Dans une de terminologie, je vous entends dire plusieurs personnes. Je vous entends parler d'emploi indépendant. Alors, à mon avis, on est soit employé, soit indépendant. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ça? Et deuxième question adressée à Mme Desberger. Est-ce que dans votre étude, vous vous êtes occupé particulièrement du travail à l'appel qui prend de plus en plus d'ampleur et des problèmes qui surgissent avec ça?
Oui, alors... Pour le travail indépendant, c'est très clair. Donc, c'est des personnes qui ont leur propre entreprise. Hein. Alors, ça peut aussi être une personne tout seule qui se considère comme indépendant. Le critère, ça reste l'AVS. Hein. C'est très clair. Ou bien c'est votre employeur qui paye, ou bien c'est vous. Donc, c'est simple. Et ce qu'on voit actuellement, surtout chez les femmes aussi, c'est que les personnes qui se disent indépendantes, donc qui sont indépendantes, leur nombre augmente actuellement. C'est très souvent pour les femmes, c'est des petites choses. Hein, à la limite même une femme de ménage peut se déclarer indépendante, ou c'est des petits boulots qui sont souvent une alternative au chômage. Par rapport au travail sur appel, dans l'enquête sur laquelle j'ai travaillé, on n'a pas directement cette information. La seule chose que j'ai pu voir, ce sont les heures de travail variables. Donc des personnes, quant à la question combien d'heures par semaine vous travaillez, certaines personnes ont répondu nombre d'heures variables. Hein. En fait, ça correspond à ça. Et donc, effectivement, là, on constate une augmentation. C'est pas encore énorme, j'ai pas les pourcentages en tête. Ça reste marginal, mais effectivement, ça augmente, ça c'est vrai. Et c'est évidemment toujours du travail à temps partiel.
Oui, juste une remarque ou une question. Enfin, je ne suis pas du tout économiste, mais puisqu'il s'agit de penser différemment, je me demandais la notion même de temps partiel. est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi de la définir ou de la redéfinir? Parce que historiquement, le temps complet a passé de 72 heures par semaine à 60, à 50, de nos jours, enfin récemment, à 40. C'est une question de situation, de conjoncture. Alors, est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi de se reposer la question de ce que c'est qu'un temps partiel? Parce que ce qu'aujourd'hui on appelle un temps partiel, je ne sais pas, 30 heures par semaine, pourrait demain être le temps complet.
Ouais, j'aimerais bien que ce soit. J'ai quelques doutes, surtout pour la Suisse. Alors, non, effectivement, c'est vrai, mais je crois qu'actuellement, on le sait très bien. On demande à la personne, est-ce que vous travaillez un temps partiel? Tout le monde sait à peu près, dans son entreprise où il travaille, la durée de travail normale, souvent déterminée par le contrat ou par une convention collective, est de tant d'heures, hein, 40, 42 en général. Donc là, on a encore une réponse exacte, mais effectivement, comme j'ai montré, il y a toutes les possibilités existent et on trouve une gamme extrêmement large. Temps partiel, moi je l'ai utilisé, tout ce qui est en dessous de la durée de travail normale dans l'entreprise. Donc en Suisse, on est encore très, on n'est même pas aux 40 heures, alors, hein, entre parenthèses.
Sur ce point, voilà, je pense que vous avez tout à fait raison. Je citerai l'exemple de Hewlett-Packard où à Grenoble, on a réaménagé le temps de travail où on a des gens qui, pour un revenu identique, travaillent soit 37 heures de jour, soit 30 heures, je crois, de soirée, soit 23 heures de nuit. C'est quoi le temps partiel dans cette affaire? C'est quoi le temps complet? C'est vrai que dans l'étude de Mme Delsberger, comme dans la mienne, on a encore raisonné avec les mêmes de schémas. Mais c'est évident que si ces mutations se prolongent, eh bien, il faudra aussi changer ce type de vocabulaire et retrouver des nouveaux termes pour désigner ces mutations.
J'ai une question pour le professeur Flückiger. Bon, je constate depuis ce matin qu'il n'y a pas d'hommes dans la salle, ou quasi pas. Je me dis, les choses ne vont pas changer tant que les hommes, ils n'ont pas intérêt à ce que ça change. Donc, ils n'ont pas l'air d'être intéressés à ce que ça change. Mais est-ce que vous, par exemple, vos collègues masculins, étaient intéressés par le travail que vous avez mené? Et pourquoi il n'y a pas de collègues qui sont venus aujourd'hui?
C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je crois que pour les intéresser, malheureusement, et ça je rejoins Madame Gilliot, on est d'une certaine manière obligé de montrer qu'on utilise des méthodes quantitatives, soi-disant scientifiques. C'est une manière un peu de les approcher, de leur dire on peut faire dans ce domaine-là un travail comme vous le faites, vous, dans d'autres domaines. Mais il n'en reste pas moins que le fait de travailler sur des thèmes comme ça font toujours un tout petit peu sourire des collègues masculins, notamment économistes. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça.
J'aimerais peut-être aborder un autre thème. J'aimerais faire le lien entre l'exposé de ce matin de Mme Patricia Roux et celui notamment de Lucienne Gillot. Ce matin, nous avons toutes été très frappées par le conservatisme apparent donc de l'échantillon de Mme Roux, des 400 personnes vivant en couple. Et moi, ça m'a beaucoup frappé si on le met en parallèle avec les statistiques concernant le divorce, notamment. Il y a énormément de divorces en Suisse, je crois que c'est à peu près 2 ménages sur 3 qui divorcent, et que la grande majorité de ces divorces sont effectivement impulsés ou demandés par les femmes. Et je pense qu'il y a un lien, disons, entre ce phénomène-là et aussi les phénomènes de violence tels qu'ils ont été décrits donc, dans la recherche sur la violence. Et je trouve que donc, dans l'exposé qu'on a eu ce matin, on a une vision effectivement extrêmement partielle du phénomène et des formes de crise et de rupture que les femmes mettent en branle avec beaucoup de courage. Donc énormément de femmes finalement rompent avec une situation conjugale avec une perte économique en général très très grande. Et je pense que ça mériterait aussi une recherche, disons, de voir toutes ces manières dont les femmes, de manière peut-être individuelle, sans se rendre compte qu'elles font partie d'un phénomène très large, rompent effectivement avec ces situations où l'inégalité, sous toutes ses formes, et les formes subtiles de violence que vous avez évoquées, devient insupportable.
Tu attends une réponse ou...
Alors, je vais faire un commentaire.
Ce que je peux dire, c'est que dans notre enquête, nous avons aussi tâché d'avoir des indications sur le partage du travail dans le couple, voir qui faisait quoi, etc. Et là aussi, nous avons constaté une chose qui rejoint tout à fait ce que disait Madame Roux, c'est qu'il y a une différence énorme entre les mentalités et les pratiques. Nous avons demandé aux femmes, est-il normal que le... il y avait une question sur l'égalité, je ne sais plus exactement comment elle était formée, mais que dans un couple, l'homme et la femme décident à part égale ou quelque chose comme ça. Alors avec ce type de questions, tout le monde dit oui. Mais par contre, au niveau des comportements, quand on regarde les comportements, on voit qu'ils sont extrêmement traditionnels. Et pour citer un cas plus particulier, le travail domestique, qui rejoint tout à fait l'observation de Madame Roux, quand on demande aux femmes en général... Estimez-vous que les hommes devraient s'impliquer davantage dans le travail domestique? Sur les 1500, il y en a à peu près 80% qui disent oui. Mais quand on leur demande, estimez-vous que dans votre couple, souhaiteriez-vous que dans votre couple, votre mari assume davantage, à 75% à peu près, elles répondent non. Donc c'est tout à fait, je crois que ça rejoint tout à fait ce qu'on avait vu ce matin, ce décalage entre pratique et théorie.
C'est une question à Madame Pagnossin. Est-ce que, et peut-être à Monsieur Flukiger, est-ce que les économistes qui se sont penchés sur le travail ménager ont réussi, plus ou moins, à fixer un chiffre pour un salaire ménager pour une femme au foyer moyen en Suisse actuellement?
Les économistes, il y a plusieurs études qui traitent de la mesure du travail domestique par les salaires, c'est-à-dire c'est la méthode la plus utilisée. On peut utiliser plusieurs types de salaires, hein, c'est-à-dire on peut utiliser les salaires de la femme de ménage, de l'aide familiale, avec plus ou moins de responsabilités, ou bien des salaires moyens qui proviennent d'une catégorie de travailleurs et ou travailleuses. On sait que normalement, les plus proches devraient être plutôt une aide familiale avec des responsabilités, c'est-à-dire tous les côtés organisation du... Ce serait leur salaire qui reflèterait le mieux si on prend cette direction de mesure, le travail domestique. Ça dépend des pays. Je ne le connais pas en Suisse. Bien sûr, il y a le Collège du travail qui a fait des études, n'a pas pris le salaire des femmes de ménage, mais sur la base des barèmes de traitement des fonctionnaires de l'État de Genève. Elles ont fait une étude sur un certain nombre de critères. Ils ont mis ensemble un certain nombre de critères. Et on peut dire que selon la composition des ménages et certains éléments et pondérations, on peut avoir un chiffre environ entre 30-35%, 35 francs environ. Ça dépend. Oui, bien sûr, on arrive à ces chiffres-là, bien sûr. On arrive à ces chiffres. Combien d'heures par jour?
Oui, c'est ça. Je veux dire, une femme travaille la nuit, un bébé malade. Alors, en moyenne.
Disons, alors, on prend d'autres chiffres, autre chose. On prend l'Office fédéral de la statistique avec une enquête selon laquelle une femme suisse travaille en moyenne 23 heures par semaine. Moyenne, les hommes, 10 heures, c'est sûr que c'est une extrapolation de certaines données. Et à partir de certains regroupements, on arrive aux 40 heures par semaine que j'ai cité dans mon exposé pour... une mère de famille avec un enfant en bas âge, c'est-à-dire entre 0 et 6 ans.
Mais, moi, j'aimerais aussi poser une question par rapport à ça. C'est un peu une réflexion qui me vient à partir des deux exposés que vous avez faits, Monsieur Fluquier et vous. Parce que si on essaye d'évaluer le travail domestique en le comparant à des travaux sur le marché de l'emploi, est-ce qu'il n'y a pas un biais dans la mesure où justement ces travaux sont effectués par des femmes la plupart du temps, avec toutes les biais qu'a montré Monsieur Flukiger, c'est-à-dire des travaux qui sont en général moins payés que s'ils avaient été faits par une femme. Ça, c'est une des premières questions. Par un homme, excusez-moi. Quel lapsus. Je suis fatiguée. Et ça, c'est la première chose. Par rapport aussi à la question du temps, c'est vrai, bon, les réactions montrent bien que souvent, quand on est mère de famille, on se sent floué par ces budgets de temps. Et je pense que la question qui se pose, et ça retourne à une question méthodologique, c'est que ce qui est typique du travail domestique, c'est le fait qu'on fait plusieurs choses en même temps. C'est le fait qu'on peut faire la vaisselle pendant que le gamin dort, ou etc. Enfin, c'est non seulement la multiplication des tâches, mais le fait qu'elles se font en même temps. Et c'est très difficile à évaluer à travers les budgets de temps, il me semble.
Évidemment, parce que normalement, les budgets de temps prennent en considération seulement l'activité principale. Alors, justement, un des avantages de la méthode de notre recherche était justement le fait qu'on peut avoir aussi les activités dites secondaires ou simultanées, parce que finalement, on valorise les produits et pas les temps. Or, les enquêtes budgétaires, normalement, ne comptabilisent que les activités principales. Parfois, elles regroupent de manière extrêmement compacte les sous-catégories, donc ça pose des problèmes. La garde des enfants n'est considérée que garde d'enfants que quand c'est une activité principale. Or, les mères restent à la maison pour garder l'enfant, même si elles peuvent faire d'autres tâches domestiques. Mais il y a le côté responsabilité qui fait que, par exemple, une mère reste à la maison parce que, normalement, elle doit garder l'enfant, elle ne le laisse pas seule, mais elle peut s'occuper du repas, du nettoyage, etc. Ça, c'est sûr, c'est un des inconvénients des méthodes de valorisation basée sur les temps et les salaires. Ça, c'est évident.
Mais toujours sur la question de la valeur et du calcul qu'il est possible de faire sur les tâches domestiques, comment faire? Parce que c'est effectivement très complexe, hein, comme type d'activité. Alors, comment faire pour faire la différence au niveau économique entre ce qui est fait, disons, comme service et comme production? Je pense, par exemple, à l'élaboration d'un repas. Hein, qu'il faut faire, parce que pour la lessive, ça me paraît très clair, c'est un travail qu'il faut faire. Mais il y a d'autres choses qui se font dans le domestique et qui sont des fois du travail et des fois du plaisir. Je parle par exemple de la préparation d'un repas, il n'a pas toujours le même sens. Alors comment on fait pour le calcul, ou bien la surveillance des devoirs? Comment vous calculez la valeur économique, là?
Parce que la valeur économique, j'avais défini les activités marchandes et non marchandes en utilisant les critères de la tierce personne. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs, qui l'utilise, bien évidemment. Par ces critères, un repas, c'est une activité marchande. Peu importe si vous avez du plaisir ou pas. Même quand vous travaillez à l'extérieur, vous avez une activité professionnelle, vous pouvez avoir du plaisir à la faire. Donc, les côtés personnels, qualitatifs, n'entrent pas en ligne de compte.
Oui. Mais par rapport toujours à... Pardon. Mais par rapport à cette question justement du travail et puis de savoir si on peut chiffrer le travail ménager ou pas, je me demande quel est l'enjeu, quel est l'intérêt de savoir ça, parce que est-ce que c'est pas aussi un risque de nouvelle domesticité pour la femme, dans le sens où on va dire, ben madame est payée, elle travaille à la maison, et ben qu'elle y reste à la limite.
Comment elle est payée?
Non, si on salariait le travail ménager.
Vous faites comment pour les salariés? En tout cas, ce n'est pas le but de la valorisation du travail domestique. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de faire en sorte que nécessairement qu'une femme qui accomplit des tâches non marchandes soit payée. Et d'ailleurs, par qui? Soit il y a le mari, soit il y a l'État. Il n'y a pas d'autres possibilités pour qu'elle le soit. Non, c'est une question de considérer que c'est une production. Ça fait, c'est un domaine économique, même s'il n'y a pas de critères qui finalement c'est l'argent, que ce soit les prix du bien marchand ou bien les salaires. Finalement, les critères, c'est de donner un chiffre, un argent. Vraiment, en m'exprimant.
Madame peut-être Goldschmidt,
juste une phrase, hein.
Qui veut répondre, peut-être continuer, juste passer le micro à Madame Goldschmidt qui a fait la recherche, qui va continuer aussi, puis après on vous passe. Elle apporte un complément.
Si. Je voudrais juste être sûre qu'on se comprend bien. Quand on dit qu'on veut mesurer la valeur économique du travail domestique, on veut dire en quelque sorte que quand on regarde au niveau du ménage, ce qui est consommé par le ménage, quelle fraction du produit national est consommée par le ménage, donc pas l'armée, la police, la sécurité, mais les choses que consomme le ménage, et quelle fraction est produite par les ménages eux-mêmes qui les consomment sans passer par une transaction monétaire. On s'aperçoit que, je vous donne un chiffre comme exemple, en Allemagne, en 1994 ou 93, c'est-à-dire un pays fortement industrialisé, et où l'étude de mesure de cette valeur a été faite très consciencieusement, on arrive à ce que les ménages, on s'aperçoit qu'ils consomment, ce qu'ils consomment vaut 100, plus de 60% a été produit par eux-mêmes. Alors c'est ça que nous voulons savoir pour le moment. Nous ne voulons pas du tout, et il ne faut pas faire de confusion, parler de rémunérer la femme au foyer en fonction de je ne sais pas quel critère. Le ménage a un bien à sa disposition. C'est ça qui est économiquement important. On ne va pas en plus aller chercher à l'État ou ailleurs de l'argent à donner à ce ménage. Ce serait aberrant. Du point de vue social, ça reviendrait à dire que les ménages qui sont suffisamment pourvus du point de vue monétaire peuvent se passer d'aller sur le marché, tandis que les ménages qui ont besoin de deux salaires, ceux-là, ils n'auraient pas l'allocation. Donc, laissons complètement de côté la question du salaire pour le travail ménager. C'est déjà si difficile. Et l'imputation de valeur que nous faisons, qui est un peu abstraite, puisqu'il n'y a pas eu de transaction, c'est, comme le disait très bien Mme Pagnosine, si on veut débloquer dans l'esprit des économistes et des politiciens qui font la politique sur la base des données qu'ils ont, si on veut les débloquer sur cette question, il faut parler la même langue pour le secteur marchand et non marchand. Si on nous donne le PNB à tout moment comme indication de l'avenir de la crise ou que sais-je, bon, alors sachons que ce PNB est produit avec la moitié du travail du pays, la moitié seulement, et que son ordre de grandeur, c'est environ 45% dans les pays industrialisés dans les années 90. 40% du produit national. C'est des approximations, mais ça donne des ordres de grandeur. Et ça marche, ce système. Je suis d'accord avec Flückiger quand il dit que il y a des sourires dans l'audience quand on parle de ce sujet parmi les économistes. Je l'ai vécu très profondément. J'étais l'unique femme, pas tout à fait, 10% de femmes dans les réunions de comptables nationaux, mais j'étais la seule qui parlait de ce sujet-là. En 15 ans, on a fait un chemin tel que maintenant l'Office de statistique des Nations Unies, qui est l'organe fêtier pour dire aux pays comment faire leur comptabilité nationale, va rédiger d'ici la fin de l'année un volume dans lequel on traitera de comment mesurer le travail domestique. Merci.
Bien, alors l'heure avance, tout le monde est fatigué. Je propose encore deux questions avant de passer la parole à Madame Valmercao qui fera la synthèse de la journée. Alors je ne sais pas qui veut poser encore des questions. Alors ici, là il y en a une.
Si, directement lié à ce problème, je voulais vous demander à vous et à Madame Pagnosin, dans quelle mesure on n'a pas tenté d'introduire dans ces calculs une évaluation de la qualification et de la pénibilité des tâches selon des techniques qui se rapprochent des techniques ergonomiques de l'analyse du poste de travail, Et de là déduit le montant que représentent des salaires comparables à ces différents types d'activités, en utilisant aussi ces échelles de salaires selon le degré de qualification.
C'est sûr, peut-être il faudra le faire, mais on a déjà beaucoup de problèmes pour essayer de définir les bases. C'est vrai, je n'ai pas mentionné dans les détails aussi les problèmes, par exemple, d'essayer d'évaluer l'équivalent marchand qu'on a utilisé dans notre propre recherche. On essayait de voir si les prix qu'on essayait d'imputer à une certaine activité et produit étaient se situer d'après les ménages, à quel niveau se situait cette évaluation du prix que nous on voulait donner. Donc il y a aussi une étape qualitative qui doit être prise en considération aussi dans le cadre de l'évaluation du travail domestique, c'est sûr.
Bien, je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Madame Balmer-Cao qui fera la conclusion de cette journée. Quant à nous.
L'allocution serait ni une conclusion ni même une synthèse. C'est un risque que j'ai pris. En effet, pour conclure, ce serait difficile car il me semble que le débat ne fait que de commencer ici comme ailleurs. Et pour synthétiser, ce serait pas plus facile car il me semble que les questionnements, on l'avait vu aujourd'hui, sont si variés et les intérêts scientifiques très divers. Mon intention cet après-midi est donc bien plus modeste. Elle vise simplement à dégager quelques lignes forces de ce colloque. Je vais surtout tenter de remettre les résultats qui ont été présentés aujourd'hui dans un cadre plus large que celui des objectifs du PNR 35 dont je vous ai parlé ce matin. Mais permettez-moi tout d'abord de faire une remarque préliminaire. Notre colloque se structure aujourd'hui autour de deux thématiques, vous l'avez vu aussi dans le programme. Il s'agit d'une part de mettre en lumière l'inégalité des sexes en tant que construction sociale, mais elle-même se trouvant en reconstruction perpétuelle. Et il s'agit d'autre part d'élaborer des outils pour permettre de penser cette inégalité et d'appréhender l'hiérarchie des sexes. Les 8 projets sont répartis en 2 tables rondes qui traitent chacune à son tour l'une de ces 2 thématiques. Le résultat est bien proportionnel. 2 fois 4 projets, un bel équilibre. Apparemment, ce bel équilibre est le fruit du hasard. La répartition se faisait en fonction, en premier lieu, de l'orientation et des priorités des projets. Or, il me semble que, dans une certaine mesure, cette répartition pourrait être également inversée. En d'autres termes, j'aimerais souligner les apports méthodologiques des 4 projets de la table ronde de ce matin et les contributions théoriques des 4 projets de la table ronde de cet après-midi. En ce qui concerne les quatre projets présentés ce matin, on peut dire que, au-delà de la pluralité du champ d'étude, il y a également pluralité de la méthode. Les projets en question utilisent en effet non seulement une, mais deux et parfois plusieurs techniques de recueil de données. Il est vrai que dans le sens très strict du terme, ces projets n'ont pas inventé de nouveaux instruments d'investigation. Par contre, on constate un souci très net de saisir la réalité sous ses différentes facettes. Par exemple, pour repérer le caractère ambivalent de l'impact des traditions chrétiennes sur l'égalité des sexes, les auteurs ont notamment analysé le discours des organisations religieuses. Ils ont étudié le processus de décision de l'accès des femmes à la cléricature et ils ont passé en revue des statistiques, nous avons entendu plusieurs pourcentages, pour connaître les impacts d'une telle décision. De même, pour mettre en lumière la reproduction des inégalités des sexes dans les entreprises, les chercheuses ont travaillé sur plusieurs plans à la fois. Elles ont notamment conduit des entretiens en profondeur auprès des responsables du personnel. Ils ont lancé une enquête auprès des employés et ils ont procédé à l'observation ergonomique des postes de travail. En ce sens, le fait d'utiliser plusieurs instruments d'observation et de mesure et de combiner le quantitatif et le qualitatif augmente sensiblement la probabilité de saisir ce processus polymorphe et mouvant qu'est la construction sociale et culturelle du genre. J'aimerais bien reprendre ici la métaphore du caméléon qui change tout le temps de couleur. Considérons maintenant les quatre projets qui ont été présentés à la table ronde de cet après-midi. De toute évidence, le rapport ne peut être réduit à la méthode. C'est que ces projets mettent en lumière des paradigmes généraux qui façonnent les rapports sociaux de sexe. Par exemple, la violence conjugale perd son caractère privé et accidentel quand elle la situe par rapport à la question beaucoup plus profonde, beaucoup plus générale, qui est celle du pouvoir. Dès lors, la violence contre les femmes ne peut plus être bagatellisée car elle reflète la domination masculine en tant que principe de stratification de notre société. Un autre exemple, le lien entre travail et famille. Un tel lien perd, il me semble, son évidence, voire sa banalité, lorsque l'on montre qu'il repose sur l'inégalité des rapports sociaux entre les sexes et qu'il reproduit le primat de la production assignée aux hommes sur la reproduction assignée aux femmes. Dès lors, on comprend pourquoi le lien entre travail et famille est établi uniquement quand il s'agit des femmes et qu'il finit toujours par dévaloriser le travail féminin. La discrimination dite statistique des femmes professionnellement actives et la dénégation du travail ménager montrent combien ce processus est intériorisé non seulement par le monde professionnel et ses chefs du personnel, mais également par l'État et ses services de comptabilité nationale. Ce jeu d'inverser les classifications, les répartitions, je voulais proposer, ni par malice, ni par goût de la contradiction, même si je l'aime, il s'agit simplement de rappeler une chose. J'aimerais en effet souligner le fait que dans la recherche, outils conceptuels et méthodologiques sont complémentaires, voire indissociables. Leur double support est nécessaire car la recherche sur les femmes et les rapports sociaux de sexe a une visée de dévoilement. Cette visée consiste à montrer la domination masculine comme le principe organisateur de la société et de la pensée, et les différences des sexes comme une pratique sociale qui légitime et qui reproduit cette domination. Plus concrètement, disons que dans le travail de dévoilage, les outils méthodologiques devraient permettre d'objectiver la réalité, c'est-à-dire de mettre en évidence l'hiérarchie des sexes et les différences qui en découlent. Par contre, les outils conceptuels devraient permettre de penser la domination masculine, de la concevoir comme une, non pas comme une, quelque chose de donné, mais quelque chose de socialement construit. Apparemment, la question de l'égalité des sexes jouit d'une certaine visibilité ces dernières années. On a l'impression que l'égalité est enfin mise sur agenda, comme le disent les politologues. Ce matin même, nous avons parlé d'une émergence de l'expression sociale de l'égalité. Mais cette visibilité est trompeuse. Elle peut nous induire en erreur. Tout d'abord, la visibilité donne l'impression que les choses sont en train de changer ou de bouger. C'est peut-être le mérite de nos efforts d'objectiver. Mais souvent, cette visibilité fait oublier le fait que la domination est précisément un processus qui se compose, décompose et se recompose sans cesse. Le caméléon change de couleur, c'est séduisant, mais il reste un caméléon. Et dans ce cas, le changement ne veut pas dire nécessairement progrès. On sait par exemple, et nous l'avons aussi parlé aujourd'hui, que la féminisation d'une profession correspond en même temps à sa dévalorisation. Perte de prestige, baisse de salaire, précarisation, etc. On peut expliquer ce phénomène de différentes façons, mais n'empêche qu'une telle féminisation reproduit tout simplement des rapports sociaux inégaux entre les sexes au lieu d'entamer une vraie mixité professionnelle. Ensuite, cette visibilité joue le rôle d'un télescope. Le plus souvent, elle agrandit un seul fait et de la sorte, elle exagère et déforme la réalité. L'exemple des femmes pasteurs le montre. La survisibilité, j'aime bien ce concept, les couronne, comme elle a l'habitude de couronner les minorités qui sont arrivées. Bien sûr, il s'agit des modèles de rôle, comme le disent si joliment les sociologues. Mais l'impact politique peut être tout à fait le contraire. Au mieux, ces rares réussites aident à faire oublier l'échec de la majorité et à ratifier l'ordre établi. Au pire, elles servent de justification au statu quo et d'argument contre des mesures visant à concrétiser l'égalité. Il ne s'agit pas de propager du pessimisme, mais si l'on part du constat que les rapports sociaux de sexe sont des constructions, le travail de dévoilage scientifique ne peut se faire, à mon avis, que s'il reste constamment vigilant vis-à-vis de ce processus mouvant où rien ne semble acquis une fois pour toutes. Après cette remarque préliminaire, je vais tenter de montrer l'apport des projets de la Romandie en les situant par rapport aux objectifs du PNR 35. Rappelons brièvement que le programme se propose comme premier objectif d'analyser les différentes conceptions de l'égalité qui façonnent les relations entre hommes et femmes dans notre société. Or, il me semble que les résultats présentés permettent de repérer au moins deux problématiques qui sous-tendent les conceptions de l'égalité. La première est celle des équivalences et des équations. Il existe plusieurs termes qui font partie de l'analyse de l'égalité des sexes, même s'il n'est que par opposition. Ces termes que vous connaissez sont par exemple différence, inégalité, discrimination. Or, s'agit-il des équations? Voilà la question dont je me pose. En principe, ces termes ne sont pas équivalents. Par exemple, si on part de l'idée que la différence est partie intégrante de toute identité, sexuelle y comprise, les différences entre hommes et femmes ne peuvent être réduites a priori à l'inégalité. De même, une inégalité de traitement en faveur d'un groupe ne signifie pas nécessairement une discrimination contre d'autres groupes. Sinon, on ne pourrait plus parler de justice sociale et l'État ne pourrait plus soutenir les paysans des régions de montagne et ils devraient en principe soumettre leur Croix-Rouge ou Helvetas au même taux d'imposition que les entreprises ou bien les grandes banques. Il ne s'agit pas ici d'entamer le débat qui oppose universaliste et différentialiste, ou bien d'aborder la problématique qui sous-tend la mise en œuvre des mesures positives. Il s'agit de souligner que dans la pratique, il y a effectivement équivalence entre différence, inégalité et discrimination. Tous les 8 projets qui ont été présentés aujourd'hui montrent chacun à son tour que cette équivalence existe. Par exemple, celui qui étudie les inégalités dans les entreprises ou celui qui analyse les discriminations salariales. Il montre que la différence faite entre hommes et femmes sur le marché du travail aboutit quasi automatiquement à une inégalité au point de vue poste de travail, conditions d'emploi, chances de promotion, salaire, etc. D'un côté, cette inégalité constitue une discrimination des femmes et de leur travail, et de l'autre, elle sert de légitimation à la différenciation du travail masculin et féminin. Cet exemple d'équivalence montre que des concepts apparemment neutres, comme la différence, peuvent fonctionner en réalité comme des mécanismes qui organisent l'hiérarchie des sexes. La seconde problématique qui ressort des projets présentés à ce colloque, dans le cadre de l'étude des conceptions, est celle de l'éclatement, me semble, du concept de l'égalité. Il me semble que dans la société moderne, on vit simultanément des concepts d'égalité très différents. Tout se passe comme si le concept de l'égalité évoluait selon des temporalités et des rythmes multiples. Le projet sur les modèles normatifs de l'égalité et les justifications des pratiques inégalitaires illustre bien ce phénomène d'éclatement. Il y a tout d'abord décalage, nous l'avons vu ce matin, entre sphère publique et sphère privée. D'un côté, on trouve l'égalité en tant que norme légale, et de l'autre, on trouve l'égalité en tant que vœu pieux, dont la non-réalisation bénéficie de toutes sortes de circonstances atténuantes. Il y a ensuite écart en fonction des modèles de couple. Les rapports entre l'homme et la femme se conçoivent davantage en faveur de l'homme à mesure que la cohabitation se formalise. On pourrait presque dire que c'est le mariage qui tue l'égalité. Il y a enfin divergence entre le degré d'insertion professionnelle des femmes. Les conceptions des femmes professionnellement actives, surtout quand elles sont à plein temps, sont plus égalitaristes que les autres. Ainsi, l'éclatement du concept de l'égalité nous invite non seulement à en parler au pluriel, il faudrait parler non pas du concept, mais des concepts de l'égalité, il me semble, mais également à le concevoir en termes de continu comportant plusieurs étapes intermédiaires. Le second objectif du PNR 35 est de mettre en évidence les obstacles qui contrecarrent la concrétisation de l'égalité. Or, la première difficulté à ce niveau me semblerait être l'identification des obstacles. D'une part, les mêmes faits peuvent avoir un impact différent selon le sexe. Le projet sur les inégalités salariales montre que, tout en égal par ailleurs, le mariage, par exemple, est un malus pour les femmes, mais il est un bonus pour les hommes. Par contre, le niveau d'instruction et les heures supplémentaires contribuent un peu plus au salaire féminin qu'au salaire masculin. D'autre part, le sexe opère seulement de façon occasionnelle, c'est-à-dire il entre en action seulement sous certaines conditions et en combinaison avec d'autres facteurs. Sur le marché actuel du travail, par exemple, le sexe, et ça j'ose le dire, je le prétends, le sexe est à peine pertinent pour la plupart des postes subalternes. Par contre, non seulement le sexe féminin, mais aussi et surtout son attribut traditionnel, que sont les charges familiales, deviennent des obstacles, des barrières, dès qu'il s'agit des postes de direction. La seconde difficulté dans ce cadre, c'est moins de mettre en évidence l'importance de l'un ou de l'autre obstacle, mais plutôt de montrer leur caractère auto-renforçant. Comment ce mécanisme fonctionne-t-il concrètement? Le projet sur les inégalités entre hommes et femmes dans les entreprises montre cette pratique à plusieurs niveaux. Grosso modo, disons que, tout d'abord, les différences entre les sexes s'inscrivent sur le marché du travail où la ségrégation des professions se fait en fonction du sexe. Les modes d'organisation de l'entreprise viennent ensuite la renforcer, ceci en sexualisant les postes de travail et en naturalisant les qualités professionnelles. Les employés légitiment enfin ce discours et ces pratiques, les femmes et surtout les hommes, défendant chacun leur territoire. La troisième difficulté dans la mise en évidence des obstacles, c'est de trouver le contexte qui permet de les éclairer. Très souvent, un phénomène trouve un sens seulement si on le situe par rapport à un environnement, à un contexte donné et adéquat. Par exemple, la famille semble constituer une barrière pour la carrière féminine dans le secteur économique, mais pas nécessairement dans le secteur politique. La politique serait-elle plus moderniste, plus égalitariste? Or, pour comprendre cette différence et répondre à cette question, je vous invite à examiner ce phénomène dans le contexte de chacun des deux sous-systèmes. Tout d'abord, disons que la division du travail entre les sexes au niveau de poste de décision est plus traditionnelle dans un parlement que dans une entreprise. Les tâches incombées à la politique sont plus variées, sont plus nombreuses aussi. Et on y trouve plus facilement des domaines dits féminins, éducation, culture, troisième âge, etc. Ensuite, la politique échappe plus difficilement au contrôle dit démocratique, ce qui assouplit en partie les normes de sélection de ces élites. Et enfin, aux yeux de certains électeurs ou partis, la famille passe pour la garantie d'un minimum d'acceptation de l'ordre social ambiant. Et je dirais que, éclairée sous cette lumière et mise dans ce contexte, l'indifférence relative du monde politique pour les femmes mariées avec enfants, au lieu d'être une vraie ouverture à la mixité du pouvoir, vise plutôt à rationaliser l'ordre établi et à adapter le système aux nouvelles contraintes de la modernité. Le troisième objectif du PNR 35 vise à repérer des mesures pour promouvoir l'égalité entre femmes et hommes. Bien sûr, il ne s'agit pas de proposer des solutions clés en main. Ce serait d'ailleurs irréaliste vu la complexité du problème et l'état de nos connaissances. Je conçois la contribution du PNR 35 essentiellement dans son travail de dévoilage des mécanismes de discrimination d'un côté et dans son rôle de susciter le débat public de l'autre. Et ce double travail est complémentaire et il doit se faire conjointement avec les mouvements sociaux et les milieux de la pratique. Je vois déjà Madame Égalité de Genève sourire. Et comme plusieurs projets l'ont déjà signalé, il existe des zones de résistance où les rapports sociaux de sexe continuent d'être conçus dans une perspective hiérarchique. C'est le cas, par exemple, des familles où la division sexuelle du travail est extrêmement stricte et où l'homme domine. C'est encore le cas des entreprises où des postes de travail ont un sexe et où l'organisation obéit au seul principe masculin. Changer la réalité, voilà la recette préconisée par plus d'un projet. Des propositions concrètes ne manquent pas. Elles touchent à la comptabilité nationale, à l'église, à la police, aux entreprises, etc. Mais cependant, je dirais que changer la réalité seule ne suffirait pas. Soyons logiques. Si nous partons de l'idée que l'hiérarchie des sexes est tout un édifice social, alors l'inégalité n'est pas que globalité et objectivité. Elle est aussi et surtout individualité et subjectivité. On sait que les individus finissent toujours par rationaliser leur quotidien en justifiant les écarts entre représentation et pratique. En d'autres termes, pour qu'il y ait changement, il faut que la divergence entre la norme d'égalité et le quotidien inégalitaire soit conçue par les individus en termes de tension, en termes de dissonance. Et c'est notamment à ce niveau-là que le dévoilage et le débat public, à mon avis, pourraient et devraient intervenir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé d'inégalité, de son objectivation et de sa reproduction. J'ai également doublé ces choses en vous parlant de visibilité qui trompe et des équations qui organisent l'hiérarchie des sexes. Mais c'est moins par physisme ou par misérabilisme, que par souci de dévoiler un processus reconnu comme efficace et complexe. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que nous avons placé ce colloque sous le signe des métamorphoses. Les métamorphoses s'appliquent au processus de mutation où les formes et les structures se composent, se décomposent et se recomposent, mais finissent par aboutir à des changements. À la différence du mimétisme, du caméléon, où l'on retourne pratiquement toujours à la case de départ, la métamorphose, elle, se termine par une transformation de l'objet. Et c'est à la métamorphose des rapports sociaux de sexe que le PNR 35 espère contribuer. Et c'est sur ce vœu que j'aimerais conclure. Je vous remercie de votre attention et au nom du comité d'organisation, je vous remercie de votre participation active à ce colloque. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci.
Ah, il faut remettre les chaînes.